Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Clément Salazar, aussi Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, Juliette Gadeau, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson et mise en onde par Anthony Thomasson. On poursuit notre série consacrée à la démondialisation. Si aujourd'hui il existe un consensus autour de la nécessité de changer notre économie afin de préserver l'environnement et d'assurer la survie de nos enfants, il demeure pourtant des débats extrêmement rugueux sur la manière de s'y prendre. Verdir l'économie, réorienter très progressivement cette économie sans lui imposer de trop fortes contraintes, notamment aux acteurs économiques, ou carrément rompre avec le modèle existant et engager une véritable révolution économique sur les sentiers de la décroissance, c'est notre sujet ce matin.
Voilà comment on voyageait en 1900. C'est une carriole à cheval, elle n'a pas de chauffage, pas de climatisation. Ce cheval tire la carriole à 1% de la vitesse du son sur des chemins de terre défoncés qui se transforment en bourbier lorsqu'il pleut. Voici un Boeing 707, à peine 60 ans plus tard. Il vole à 80% de la vitesse du son et on ne voyage pas plus vite aujourd'hui, parce que les vols commerciaux supersoniques se sont avérés être des fiascos. J'ai donc commencé à réfléchir et à me demander, se peut-il que les meilleures années de croissance de l'économie américaine soient derrière nous? Et j'en suis arrivé à suggérer que peut-être la croissance économique touche à sa fin. Certaines des causes de cette hypothèse ne sont vraiment pas controversées. Il y a quatre vents contraires qui frappent l'économie américaine en pleine face. Il s'agit de la démographie, l'éducation, la dette et les inégalités. Ces causes sont assez puissantes pour réduire la croissance de moitié.
Presque 45 ans après le fameux rapport du Club de Rome, un groupe de réflexion réunissant des scientifiques, des économistes et autres fonctionnaires d'une cinquantaine de pays, qui pour la première fois alertait le monde sur les limites de la croissance, certains économistes, comme Robert Gordon, qu'on entendait à l'instant, auteur d'un best-seller paru cette année, The Rise and Fall of American Growth, l'ascension et la chute de la croissance américaine, eh bien certains économistes continuent d'avertir le monde sur le fait que la croissance ne pourra pas se poursuivre sur les rythmes auxquels nous étions habitués au XXe siècle, en moyenne 2% pour les États-Unis. À moins de 3 mois de la COP22 qui se tiendra cette année au Maroc, et alors que les deux plus gros pollueurs de la planète, la Chine et les États-Unis, viennent de ratifier l'accord de Paris sur le climat, le débat reste vif, très vif, au sein des écologistes et des économistes, entre les partisans d'une croissance verte et les militants de la décroissance, les uns et les autres s'accordant sur une nécessité, celle de trouver une alternative à un modèle fondé sur la surconsommation des ressources naturelles et la dégradation de l'environnement. Mais les réponses, elles, diffèrent. Alors faut-il simplement réformer notre modèle, ou y a-t-il urgence à complètement le changer, le transformer? La démondialisation promue par les objecteurs de croissance n'est-elle qu'une utopie? Peut-on encore sauver la planète sans amorcer la décroissance? La fameuse croissance verte ne serait-elle pas un nouveau mythe derrière lequel se cacherait notre incapacité à penser autrement le progrès et la prospérité que par le prisme du très critiqué mais hégémonique PIB? Voilà un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ce matin. Pour y répondre, pour tenter d'y répondre, nous avons avec nous deux invités. D'abord Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences économie à l'Université Paris 13 et puis vous êtes par ailleurs co-président du collectif des économistes atterrés. À vos côtés, Fabrice Flippo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous philosophe et maître de conférences en développement durable à Télécom et École de Management, c'est bien ça? Alors, on va s'interroger ce matin sur nos certitudes et surtout peut-être nos incertitudes quant au mécanisme de la croissance et sur son avenir. Mais d'abord, peut-être un mot sur l'actualité, parce que alors que François Hollande, on l'entendait il y a une dizaine de jours, s'inquiétait de voir que l'accord de Paris trouvé lors de la COP21 n'avait toujours pas été ratifié par nombre d'États. Depuis, la Chine et les États-Unis l'ont finalement ratifié. Alors pour les États-Unis, c'est quand même un tout petit peu spécifique, parce que c'est un peu plus compliqué. Il s'agit d'un décret présidentiel, en réalité, et pas une ratification par le Congrès. Mais en tout cas, c'est une véritable avancée, d'autant qu'on s'attend à ce que d'autres pays, quand même, enclenche le pas, même si on attend toujours évidemment la signature, la ratification de l'Union européenne. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça va accélérer les choses? Et puis de façon générale, est-ce que ces deux ratifications essentielles font de l'accord de Paris un bon accord? Benjamin Coria.
Écoutez, oui, c'est une bonne nouvelle. On ne va pas regretter que des pays aussi importants que la Chine et les États-Unis déclarent signer l'accord de Paris. Bon, maintenant, il ne faut pas se payer de mots, hein, parce que cet accord, qui dans ses intentions, hein, puisqu'il affiche ne pas dépasser 1,5 degré autant que possible d'élévation des températures, etc. Donc, on ne peut que se réjouir du fait que on souscrive à ces déclarations. Mais, en pratique, comme on le sait, il n'y a pas d'engagement obligatoire avec contrôle des dispositions prises, etc. Donc, si vous voulez, oui, il faut se réjouir du fait que des grands pays souscrivent à des objectifs affichés, mais il faut.
Il faut rappeler que les États-Unis n'avaient pas ratifié le protocole de Kyoto.
Absolument, absolument. Mais il faut pas se payer de mots. Hein. C'est pas du tout pour autant que la trajectoire dans laquelle nous sommes et qui est catastrophique, hein, puisque la trajectoire d'aujourd'hui c'est plus de 3 degrés hein, d'élévation. Hein, c'est entre 3 et 4. Donc on n'a aucune garantie que on va changer de trajectoire. Voilà. Donc si vous voulez, on peut pas regretter. Hein, qu'il y ait
c'est toujours mieux que rien, mais c'est
quand
même pas
idéal. Mais il ne faut pas considérer que pour autant c'est gagné, très loin de là.
Fabrice Flipeau, sur cette ratification, Benjamin Correa disait en pratique ça ne va pas changer grand-chose. Effectivement, on peut s'interroger sur qu'est-ce que ça va changer très concrètement.
Disons qu'on aimerait bien avoir des décisions sur les facteurs clés des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qu'on aimerait bien voir. Et pour le moment, je pense que des pays que vous avez cités, c'est peut-être la Chine qui est la plus engagée avec des investissements massifs dans le renouvelable. Pour ce qui est des États-Unis, malheureusement, je suis pas un spécialiste des États-Unis, mais quand on voit la position de Trump, le pourcentage de climato-sceptiques, l'état de l'opinion sur toutes ces questions-là, on n'est pas très optimiste.
Benjamin Correa, avant de se lancer dans notre débat, je voudrais quand même qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie et qu'on revienne un tout petit peu à quelques définitions. Parce que parfois, il y a des fortes confusions entre la croissance molle, la croissance verte, la décroissance, la contre-croissance. D'autant qu'on oublie souvent de dire que derrière tout ça, mais on y reviendra, c'est quand même de croissance du PIB. Il faudra revenir sur cette question de l'indicateur. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes différences et nous faire comprendre sur quoi finalement porte précisément le débat entre partisans de la croissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle les croissantistes, et les partisans de la décroissance?
Ben écoutez, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir saisie, si je peux dire, parce que il y a certaines définitions qui sont claires, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Les mots eux-mêmes, dans un certain nombre de cas, sont des mots valises, et il y a un travail de décryptage à faire autour de ces mots. Donc on va le faire ensemble. La croissance telle qu'elle est définie traditionnellement par les économistes, elle a une dimension très très agnostique, si je peux dire, sur son contenu. C'est pour ça qu'il y a problème. La croissance, c'est l'augmentation des produits et services évalués en quantité physique et auxquels sont attachés des prix. Et c'est l'objet de la notion de produit intérieur brut ou de produit national brut, si on ajoute certaines productions, qui mesure ça. Et je dis c'est totalement agnostique, c'est un des problèmes de cette notion, parce que si on a produit bien plus de produits chimiques ultra toxiques, etc., ça va être compté comme de la valeur supplémentaire. Donc, vous voyez, ça c'est le problème du mot croissance. Alors, des croissantistes, ou des gens favorables à la croissance, sans aucun contenu, etc., je crois qu'il y en a plus guère, il y en a plus guère, ou alors vraiment, il s'agit de brutes, si je peux dire. Ceux qui se déclarent aujourd'hui favorables à la croissance, c'est pas par opposition aux décroissantistes dont on parlera tout à l'heure, presque tous pensent que il faudra changer le contenu de cette croissance, c'est-à-dire en diminuant certaines productions qui sont avec des contenus dégradants, des contenus toxiques, des contenus de création de ce qu'on appelle des irréversibilités, c'est-à-dire une destruction irréversible de matières premières, d'environnement, de sites, etc. Bon, donc diminuer ça en augmentant d'autres parties éventuelles de la production. L'idée des croissantistes, c'est la difficulté dans laquelle on est. C'est que pour le moment, on n'a pas trop su créer des emplois sans croissance. Il faut le dire, ça. Il faut le dire. C'est ça, la question. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Mais ce qui suppose...
C'est qu'on ne sait pas faire.
Voilà. Pour le moment, non, on n'a pas su faire. Mmh. Hein. Est-ce qu'on a vraiment essayé est encore une autre question. Mmh. Hein. Bon. Donc, voilà, si vous voulez, une première série de questions, une première série de définitions.
On reviendra notamment sur cette question de la création d'emplois. Fabrice Flippot, il y a quelques années, l'IDRI, l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales, avait publié un papier très intéressant qui était intitulé « Croissance verte versus décroissance, sortir d'un débat stérile » et dans lequel, en réalité, l'auteur expliquait que le débat présentait au moins l'intérêt de mettre sur la table ces questions de lien entre notre économie et la défense de l'environnement. Mais est-ce que vous pensez que c'est un débat stérile? Et finalement, si ça l'est, où se situe la vraie question?
Je ne pense pas que ce soit un débat stérile. D'ailleurs, la définition proposée de la croissance me va. À ceci près, je dirais qu'elle n'est pas agnostique sur son contenu, puisque ce que disait Benjamin, c'était une augmentation de la quantité physique. Et c'est bien pour ça que les gens qui sont du côté de la décroissance disent qu'il faut une diminution de la quantité physique, puisque la quantité physique a une empreinte écologique. Voilà, si on veut prendre que cette critique-là. Et donc la définition la plus courante de la décroissance, c'est précisément une diminution de la taille de l'économie, notamment la taille physique. Alors après, donc il y a bien une opposition qui a un sens, quoi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que évidemment, dès qu'on dit ça, on entre dans un monde nouveau d'une certaine manière, hein, puisque toutes les théories, il y a eu un travail de l'ONU là-dessus sur les 50 dernières années des différentes conceptions du développement. Toutes les conceptions du développement impliquent de la croissance au sens qui a été défini actuellement. Toutes impliquent des dimensions qualitatives. Faut-il faire d'abord des infrastructures et ensuite des services, ou d'abord des services et ensuite des infrastructures? Bon, il y a tout un débat qui existe il y a tout un tas de chemins de développement qui impliquent tous de la croissance, mais chaque fois avec des contenus différents. Hein. C'est ce que disait Schumpeter, finalement, d'une certaine manière. Et avec... c'est juste pour resituer un peu. Par contre, si on dit... Donc, on est dans un imaginaire d'une représentation du monde qui inclut comme axiome de base qu'il faut une augmentation. Si on se dit que cette augmentation est problématique et que et qu'on va jusqu'au bout en disant peut-être qu'il faut penser différemment, ça remet en cause plein de choses, évidemment. Notamment le fait qu'on ne puisse pas créer d'emplois sans croissance. Est-ce qu'on a vraiment essayé? Moi, je ne crois pas. Il y a des exemples, il y a des modèles en France qui montrent qu'on peut créer pas mal d'emplois sans forcément de croissance, hein, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il suffit, après il faut voir les politiques publiques, mais il suffit de calculer combien de temps il faut pour produire tel ou tel objet, combien de temps donne combien d'emplois. Donc si on oriente les investissements d'un côté ou d'un autre, ça crée plus ou moins d'emplois.
Alors, visiblement, nos responsables politiques n'ont pas du tout cette conviction. On entend très régulièrement, notamment François Hollande, je me souviens d'une phrase qui avait dit, on ne crée pas d'emplois sans croissance, c'est lui qui l'avait dit, sans croissance, pas d'emploi. Je me tourne vers vous, Benjamin Coria, et en tant qu'économiste et qui appartient aussi à une communauté d'économistes. Parce que dans l'article que je mentionnais tout à l'heure, je vais rendre à César ce qui est à César, il avait été écrit par Damien Demailly, qui est un jeune chercheur spécialiste de l'économie collaborative dont on parlera aussi tout à l'heure. Il disait, je vais le citer, les croissantistes reprochent par exemple aux décroissants de se concentrer sur les stocks et les flux de matière et d'oublier le jeu économique d'augmentation des prix des ressources et donc l'innovation technologique ou organisationnelle. Il poursuivait, les décroissants pour leur part critiquent les modèles économiques décroissantistes qui perdent la trace des flux de matière en se concentrant sur les flux monétaires ou encore surestiment les possibilités d'innovation en ne représentant pas explicitement les technologies clés et leurs limites. Ça donne d'abord une première impression, c'est un débat extrêmement technique, et surtout ça semble révéler une chose, c'est que visiblement la communauté des économistes n'a pas véritablement de modèle inattaquable de cette analyse, disons, de la mécanique économique. Est-ce que c'est un débat de modèle entre économistes qu'on a là, en fait?
Ah oui, bien sûr. C'est un débat, si vous voulez, ça fait bien longtemps. Par exemple, la définition que je donnais du PIB, hein, qui est donc des produits et des services en quantité auxquels on associe des prix et qui donc fait une valeur. Bien. Autant ce type de définition a fait consensus, si on peut dire, dans l'après-guerre, etc., à l'époque de la comptabilité nationale triomphante, autant aujourd'hui, il y a une série de débats au sein des économistes visant à définir des nouveaux indicateurs de richesse, des nouveaux indicateurs de bien-être, incluant les externalités, incluant le coût des pollutions, incluant des coûts négatifs liés à des destructions irréversibles. Donc c'est pour dire que, oui, le débat fait rage au sein des économistes.
Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre débat, Benjamin Coria, et on reviendra une fois encore sur cette question des indicateurs, mais il y a un autre débat chez les économistes qu'on voit qui est très fort, c'est de savoir si on va pouvoir revenir vers des moments de croissance forte, comme on l'a connu il y a quelques années. Ça, c'est un débat qui est très fort. Est-ce que c'est simplement, j'allais dire, finalement quasiment une question de personnalité, avec d'un côté les optimistes et d'autre côté les pessimistes, ou est-ce qu'il y a derrière une véritable opposition théorique quant au constat de l'atonie de notre économie ?
Non, c'est, j'ai presque envie de dire ni l'un ni l'autre. C'est une question de nature des hypothèses que vous formulez. Hein. C'est-à-dire que savoir si il y a ou non des réserves de croissance, indépendamment de la question de savoir si c'est souhaitable ou pas. Moi, je suis sur ce point très réservé. On y reviendra. Mais c'est pas la question. C'est pas mon point de vue là. Donc. Tout dépend des hypothèses que vous faites. Vous voyez, Gordon, hein, que vous avez
Robert Gordon,
que vous avez cité au début, et qui a écrit cet ouvrage devenu maintenant classique sur les limites de la croissance, et probablement, enfin, ce qu'il appelle la fin de la croissance, il fait un certain nombre d'hypothèses. Hein, et ces hypothèses sont que, le progrès technique d'aujourd'hui, les technologies d'information, n'est pas du tout aussi puissant qu'il l'a été par le passé, donc que les gains de productivité seront moindres. Il fait l'hypothèse qu'il n'y aura plus des vagues démographiques comme les baby-boomers capables, par leur travail, d'apporter de la valeur supplémentaire. Vous voyez, donc il fait un ensemble d'hypothèses, d'où il va résulter que la croissance, mécaniquement, hein, du modèle. Bien. Si vous faites d'autres hypothèses, alors vous avez des technologues, j'ai envie de dire, fous, hein, qui vont vous expliquer qu'il y a des gains de productivité formidables qui vont être faits, l'intelligence artificielle, machin. Ceux-là, ils vous diront qu'il y a des réserves de croissance très grandes. Mmh. Donc, si vous voulez, moins que le pronostic, hein, va-t-on vers davantage de croissance ou pas, indépendamment de la question de ce qui est souhaitable ou pas, hein, on va en parler tout à l'heure, il faut regarder les hypothèses des modèles. Hein, et ensuite, voir au cours du temps lesquelles de ces hypothèses se vérifient ou ne se vérifient pas, ce qui donne une qualité d'appréciation sur la validité du modèle qui a pu être
proposé. C'est une question d'abord d'hypothèse. Fabrice Flipeau.
Ces hypothèses, on le voit, renferment en fait des jugements sur l'état du monde. C'est-à-dire, y a-t-il des réserves de pétrole ou pas, accessibles à combien ? Donc c'est pour ça que vous citiez Damien Demailly, il renvoie à un certain nombre de débats techniques, effectivement, sur les choix techniques, technologiques, les réserves qui puissent exister dans tel domaine ou dans tel domaine. Et nous, ce qu'on dit, enfin, avec un certain nombre de personnes, c'est que la diversité des visions du monde qui sont derrière les modèles est quand même très limitée et qu'il faudrait peut-être que ça s'agrandisse assez fortement. Alors ça, je pense que c'est le point le principal.
Je voudrais qu'on parle à présent de croissance verte. Écoutez.
Growth has to be sustainable. And that is what
la croissance doit être durable et c'est notre mission. La croissance verte, c'est avoir une meilleure efficacité énergétique, réduire nos besoins en énergie, réduire nos émissions de carbone, et ainsi, notre croissance sera équilibrée.
L'objectif de 1% de croissance pour l'année est maintenu, nous en sommes à 0,7%. Donc il faut accélérer les investissements dans les secteurs producteurs de valeur ajoutée et d'emploi, et en particulier dans les secteurs de la croissance verte.
Le Sénégal a déjà ce qu'on appelle un rapport exploratoire sur l'économie verte qui a été élaboré en 2012. Nous avons également aujourd'hui une stratégie sur la promotion des emplois verts. Le ministère de l'Environnement a initié une étude pour la mise en place d'un PIB vert et des comptes satellites. Donc un ensemble d'éléments qui nous permettront peut-être d'ici une à deux années d'avoir notre stratégie nationale en matière de croissance verte.
Voilà, alors tout le monde nous parle d'emploi vert, de croissance verte. On a entendu Sri Prakash Javadekar, qui est ministre indien de l'Environnement, et de la croissance verte, s'il vous plaît. Il y avait Ségolène Royal, bien sûr, que vous avez reconnu, qui disait qu'il faut investir dans le secteur et la croissance verte. Et puis Amadou Lamine Diaye, qui est le directeur financement vert du ministère de l'Environnement du Sénégal. Donc tout le monde nous parle de croissance verte. Verte, pardon. Il y a beaucoup d'économistes qui, semble-t-il, en tout cas certains font cette critique, qui considèrent, qui minimisent peut-être notre dépendance, la dépendance de la croissance à l'utilisation de l'énergie fossile. Et derrière ce débat sur la croissance, il y a aussi voilà, cet énorme problème de la consommation d'énergie fossile, la question de savoir si on est capable de découpler ou pas l'augmentation du PIB et la consommation d'énergie fossile et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Si la réponse savoir si on est capable de découpler les deux, si la réponse est non, oui. Je fais une hypothèse, oui. La croissance verte est un mythe.
Oui, moi je pense que la croissance verte est un mythe. Alors maintenant, si on rentre dans une vision plus critique de ce qui est faisable, de ce qui n'est pas faisable, etc., je pense que la croissance verte est un mythe.
Alors, on ne peut pas découpler l'augmentation...
Il y a plusieurs points. D'abord, notion de croissance soutenable, puisqu'elle a été énoncée. J'ai presque envie... D'ailleurs, je rends ce faisant hommage à un de mes amis aujourd'hui disparu, qui était un économiste et un écologiste en même temps, de très grande qualité. Un des derniers articles qu'il a écrit s'appelait croissance durable, ce qui est un peu l'équivalent de croissance soutenable, ou croissance durable. Qu'est-ce qu'il voulait indiquer par là ? Il voulait indiquer par là que derrière la notion de croissance durable et de croissance soutenable se dissimule, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, des visions disant « Ah ben oui, avec des éoliennes, avec des produits consommant moins de matières premières, etc., il y a du développement du capitalisme encore possible. Du rab est encore possible. » Vous voyez ? Et je trouve que le jeu de mots...
Qui était cet économiste ? Vous n'avez toujours pas dit.
Excusez-moi, parce que son nom m'échappe, mais il me reviendra. Donc voilà, parce que vous voyez, donc derrière cette idée de croissance soutenable et de croissance durable, je crois qu'il y a vraiment une tentative de faire prendre les vessies pour des lanternes. Pourquoi ? Parce que ce dont on s'aperçoit, prenons par exemple la question d'un...
Entre parenthèses, ça veut dire quand même que nos responsables politiques, qu'ils soient français, indiens, on l'entendait, ou sénégalais, prennent les électeurs pour des idiots.
Oui, ça veut dire que je pense, je vais pas aller jusque-là, mais ça veut dire qu'ils sont saisis dans un jeu d'intérêt, dans l'influence des lobbies, et qui sont pas prêts à prendre, en tout cas pour la majorité d'entre eux, à prendre des positions difficiles en ce qui concerne le changement de modèle, qui pendant une période risque de produire des ruptures importantes. Ensuite, ça ira mieux, si je peux dire. Moi, je pense que on peut vivre mieux avec moins. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça suppose des changements qui peuvent être mentalement, économiquement, physiquement difficiles pendant toute une période. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de politiques qui sont prêts à s'engager dans cette voie.
Fabrice Flippo, la croissance verte, c'est un mythe ?
Bah oui, en grande partie.
On nous prend pour des idiots. On nous prend pour des idiots.
Les acteurs qui portent ça sont clairement pas des acteurs qui vont vers vivons mieux avec moins. Ce sont en général, c'est-à-dire moi je regarde beaucoup les acteurs qui sont les personnes qui portent ça. Et bon, je dirais un certain nombre de grands groupes qui s'aperçoivent que maintenant on peut plus faire comme si les changements climatiques n'existaient plus, que l'écologie c'est quand même important et il va falloir qu'on reconvertisse un petit peu nos modèles de manière à faire par exemple dans le bâtiment faire des bâtiments toujours en béton vert aluminium mais qui consomment moins. Mais ça va être les mêmes acteurs. Or, ces mêmes acteurs, il y a toute une série de choses qu'ils ne savent pas faire. Par exemple, on peut faire du bâtiment en bois éther et en paille éventuellement, qui sont très peu coûteux, très efficaces sur le plan thermique. Et donc, il y a plein d'avantages, mais eux, ils savent pas du tout faire ça. Donc, pour eux, c'est des concurrents, donc ils n'en veulent pas. Je prends juste un secteur, mais on pourrait prendre 1000 secteurs du même genre, où ils se reproduisent le même genre d'opposition, avec des grands groupes qui veulent conserver leur part de marché. Voilà ce qui se passe derrière.
Et alors finalement, à l'arrivée, c'est quoi le plus gros obstacle ? Vous parliez de grands groupes, vous parlez d'influence des lobbies. Finalement, c'est quoi ? Est-ce que c'est les industriels, l'industrie pétrolière ? Est-ce que c'est disons-le comme ça, on va mettre des guillemets, mais la finance mondiale. On sait que l'un des enjeux, évidemment, c'est d'aller récupérer finalement des capitaux qui circulent dans les tuyaux de cette finance mondiale pour financer la transition économique, transition écologique. C'est quoi qui pose le plus de problèmes?
C'est le jeu des intérêts constitués. Donc c'est le pouvoir des grands groupes sur leur part de marché, sur des produits sur auxquels ils nous ont acclimatés, même s'ils sont hautement consommateurs de matières premières, même s'ils sont hautement créateurs d'irréversibilité, etc., et qui veulent pas bouger de là, et qui nous, comment dire, et parce que par derrière, il faut non seulement changer tout ça, mais c'est très important aussi, parce que quand j'ai dit vivre mieux avec moins, ça sera pas forcément le cas pour tout le monde. Il y en a qui vivront mieux avec plus, tout en étant en situation de non-croissance, parce que le nouveau modèle implique une immense redistribution. Hein, ça veut dire que cette fameuse histoire du 1%, ou plus généralement des grandes inégalités qui se sont créées dans le cours des 30 ou 40 dernières années, il va falloir revenir dessus. Hein. On ne peut pas, imaginer une société se développant de manière harmonieuse, protectrice de la nature, protectrice de la qualité des rapports entre les gens dans une ville repensée, sans qu'il y ait en même temps une formidable redistribution des revenus. Donc vous voyez bien que on se heurte à des intérêts extrêmement puissants.
Alors, il y a des intérêts extrêmement puissants. Il y a effectivement ce souci du côté des décideurs, finalement, de d'abord et avant tout créer de l'emploi. Et en tout cas, pour le moment, dans leur tête, pour créer de l'emploi, il faut de la croissance. Comment est-ce qu'on fait, Fabrice Flipeau, pour changer, disons, le logiciel de nos responsables politiques et leur faire rentrer dans la tête que peut-être il y a des solutions pour aller vers de la décroissance tout en créant de l'emploi. Vous disiez tout à l'heure, c'est possible, on peut le faire. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre? Parce que pour l'instant, ils ne le sont pas. Hein.
Alors, les convaincre directement, je pense que l'expérience d'Yves Cochet est intéressante de ce point de vue-là. Quelqu'un de convaincu qui arrive aux responsabilités, qui essaye de prendre des décisions, mais qui n'y arrive pas. Parce que ce n'est pas seulement les responsables politiques, c'est l'influence de l'oligarchie, elle se sent à tout un tas de niveaux. Donc, c'est un combat politique qui se mène... partout dans la société, avec toutes sortes d'arguments qu'il faut combattre. Un des arguments à combattre, par exemple, c'est que les gens voudraient pas. Bon, alors comme les gens, on leur pose jamais la question, on ne peut pas le savoir, premièrement. Deuxièmement, les rares fois, on leur pose la question. En général, les gens veulent, c'est avec des conférences de citoyens sur le changement climatique, demandent des réductions drastiques des émissions de gaz à effet de serre et vont tout à fait dans le sens de ce que pensent les assos. Et voilà. Mais ce sont des petits acteurs qui, un peu partout dans la société, ont du mal à avoir voix au chapitre. Partout, c'est-à-dire que ce soit dans les médias, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans au niveau de l'éducation nationale. Bon, partout où la société se forme, ils sont en situation de minorité. Et ce qui ferait basculer les choses, c'est qu'ils passent d'une situation de minorité à une situation de majorité. Mais donc voilà, c'est une histoire de minorité active.
Est-ce qu'il faut s'organiser en parti, par exemple?
Aussi, c'est-à-dire, pour moi, il n'y a pas une solution. Hein. Il y a de multiples actions qui doivent être menées partout pour arriver à faire basculer les choses. Mais il n'y a pas, la balle en argent, la silver bullet qui va tuer le vampire. Ça n'existe pas.
Benjamin Coria, on parle toute cette semaine de démondialisation. Il y a beaucoup de débats sur cette nécessité d'engager le monde sur le sentier de la démondialisation. Alors, on va rappeler que le concept, il nous vient d'un altermondialiste philippin qui s'appelle Walden Bello, qu'il avait introduit dans un ouvrage au début des années 2000 qui s'appelait « Deglobalization, Ideas for a New World Economy ». Est-ce que la démondialisation serait bénéfique à l'environnement? Et peut-être que la question qu'il y a aussi derrière et qu'on pourrait se poser, c'est dans quelle mesure aujourd'hui la mondialisation est encore un facteur de croissance? Les deux sont imbriqués.
Oui, mais là aussi, il faut faire attention, parce que ça peut être aussi des mots valises. Donc, il faut se mettre un peu d'accord sur les contenus. Alors, on va distinguer deux choses. On va d'abord parler de la mondialisation financière proprement dite. Alors, sur ça, moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute, comme beaucoup d'économistes aujourd'hui. C'est une véritable catastrophe, hein, c'est-à-dire la complète liberté de circulation des capitaux, la possibilité de passer d'un actif à l'autre en une fraction de seconde, d'un pays à l'autre, etc., a créé une situation de danger permanent, qui a explosé.
Vous n'aurez pas de mal à convaincre les auditeurs, je pense qu'à peu près tout le monde est convaincu là-dessus depuis la crise de 2008, il n'y a pas de doute. Même si on a du mal à changer, il n'y a pas de doute là-dessus.
Même deuxième élément. Voilà. Alors, deuxième élément, après il y a ce qui concerne la liberté de circulation, alors je mets les pieds dans le plat, hein, des hommes et des des marchandises. Alors pour ce qui concerne les marchandises, moi personnellement, on peut avoir des visions différentes. Pour la liberté de circulation des marchandises, je pense que il n'y aura pas de développement autarcique autonome de chaque pays dans son coin. Les complémentarités, ça existe, hein, je veux dire, et il faut être capable de les valoriser dans les échanges entre pays. Pour autant, on peut avoir un système d'échange international qui est réglementé, hein, alors c'est la question fondamentale, et j'insiste sur ce point, introduit des clauses écologiques et des clauses sociales dans les échanges.
Alors,
juste un mot quand même, Seattle, hein, vous vous rappelez Seattle qui a échoué, hein, qui était la tentative de l'OMC d'élargir l'échange international, elle a échoué exactement pour ce motif-là, parce qu'elle voulait poursuivre sur de la même manière que je disais que la croissance est agnostique, l'échange international est agnostique et ne voulait pas faire intervenir en ligne de compte la nature des produits. Donc, il faut introduire une clause écologique et une clause sociale dans les échanges internationaux.
Je poursuis un tout petit peu avec vous et je passe la parole à Fabrice Flippo, mais justement sur cette question de la circulation des marchandises, regardons un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis. On voit que dans la campagne, et Donald Trump et Hillary Clinton, alors évidemment ils prêtent la défense des victimes de la mondialisation, et on voit aussi qu'ils ont l'air opposés l'un et l'autre à une nouvelle poussée du libre-échangisme. Il y a même par exemple Hillary Clinton qui remet peut-être en cause cet accord de libre-échange passé entre les États-Unis et le Pacifique. Est-ce que c'est pas le signe que là justement aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, il y a un consensus finalement pour dire que le libre-échangisme est moins bénéfique à l'économie américaine et qu'il faut aller vers un peu de protectionnisme.
Oui, non, mais je répète, il faut se méfier des mots-valises. Qu'il faille réglementer l'échange international, hein, et donc mettre fin à ce libre-échange échevelé, si je peux dire, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, en tout cas pour ce qui me concerne. Et effectivement, on a des voix fortes un peu partout. Maintenant, il faut bien voir que derrière ce point de vue s'en cache un autre. Et c'est le point de vue souverainiste consistant à dire on se boucle chez nous avec tout ce que ça implique. Bon, donc ça, évidemment, en arriver là, c'est tout à fait autre chose que de dire qu'il faut réglementer l'échange international pour introduire une clause écologique et une clause sociale.
Fabrice Flippo, sur ce lien entre mondialisation, croissance, sur cette réglementation de la circulation des marchandises. Fabrice Flippo.
Oui, je pense on est en effet dans un ensemble de mots-valises qui sont connotés, hein, protectionnisme, c'est pas bien, souverainisme, c'est le Front National, enfin, des dichotomies, des choses très très simplifiées. Déjà, faut voir dans l'histoire du monde que ce qui a bougé au niveau de l'échange, c'est pas seulement les marchandises, c'est aussi les cultures, les idées, les échanges, ils sont de toute forme. Pourquoi est-ce que l'échange économique serait le seul réputé lié à l'ouverture? L'ouverture, elle peut se faire de multiples manières. Les migrants, par exemple, les migrations sont une manière de s'enrichir des. Alors, le modèle, le mouvement de la décroissance ou la réflexion autour de la décroissance ne dit pas nous avons un modèle, voilà ce qu'il faut faire. Il y a une diversité de possibilités. Cette diversité de possibilités se nourrit beaucoup de ce qui se fait dans les pays dits sous-développés, puisque ce que beaucoup disent aussi, ce que nous disons, c'est que ce mot développement est très critiquable. Il induit une philosophie de l'histoire avec un début et une fin. L'Occident est le seul référent. Tout le monde devrait faire comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à déconstruire de ce point de vue-là et arrêter de voir les sociétés sous-développées comme étant des sociétés sans tout un tas de choses, sans démocratie, sans téléphone, sans ceci, sans... C'est pas vrai. Donc, il faut réformer toutes ces points de vue. Ces sociétés ont des solutions possiblement utiles pour l'humanité entière. Donc, il faut voir le résultat. Quel est le résultat? Après, moi, je sais pas quelle clause il faut mettre sur les marchandises à la frontière. Par contre, ce qui est important de voir, c'est quel est le résultat de ces échanges en termes de bien-être des populations.
Il faut, je vous entends, Fabrice Flippo, mais je vais vous repousser un peu dans vos retranchements, parce que la grande difficulté, finalement, pour les partisans de la décroissance, c'est de parvenir à découpler, on parlait tout à l'heure de découplage, mais de découpler l'idée de la décroissance et celle de la prospérité et du progrès en réalité. Alors comment est-ce qu'on construit, disons, un récit positif dans lequel on a une société post-croissance qui pourrait être une société prospère ? C'est ça tout l'enjeu.
Non, mais là, on va être d'accord avec Benjamin, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une société prospère ? C'est pas une société avec des inégalités phénoménales, c'est pas une société qui déstabilise le climat. Donc à partir de là, une fois qu'on a mis en place les critères, quelles sont les solutions ? Et c'est là qu'on serait peut-être pas forcément d'accord. C'est-à-dire que compte tenu d'un état du monde, même à but identique, ceux qui sont du côté de la décroissance pensent qu'il faut une réduction assez forte de la taille physique de l'économie pour arriver à un équilibre avec les écosystèmes. Donc voilà, on pense aussi, mais là on sera certainement d'accord, qu'il faut une réforme...
J'entends bien les solutions, d'accord. Mais le défi c'est comment on construit ce récit-là qui pour l'instant ne semble pas le récit, être là, c'est une semble pas toucher, influencer nos responsables.
Oui, c'est une histoire d'hégémonie. C'est pour ça d'ailleurs que le mot décroissance a été utilisé avec ses forces et ses faiblesses. Hein. C'est-à-dire comment arriver à percer l'espace public pour arriver à ce qu'il y ait suffisamment de personnes qui se saisissent de tous ces enjeux de manière à faire la masse critique nécessaire. Donc c'est un rapport de force après. Hein.
Benjamin Coria, comment on construit le récit ?
Oui, c'est vraiment la question rouge, hein, si je peux dire, hein, dans le jeu des 1000 francs. C'est vraiment la question difficile. Mais néanmoins, je ne vais pas m'y dérober et je vais essayer d'y répondre, sans prétendre évidemment apporter la solution que tout le monde attend. Si je l'avais, ça se saurait. Bon. Quel est le point ? Le point est que, autant je suis parfaitement d'accord sur le fait que il y a dans la production physique, et notamment des matières premières, etc., une réduction de volume et des économies drastiques à faire, etc., autant je pense, et je vais répondre à votre question, hein, n'ayez crainte, hein, autant je pense que dans le domaine des services, pensons par exemple à tout ce qui touche la question de l'éducation, de la santé, de l'aide aux personnes en situation de vulnérabilité, de la question de la sécurité. Dans nos banlieues, et du bien vivre dans nos banlieues, ça, il y a des investissements immenses à faire. Bien, donc c'est pour ça que, moi je n'imagine pas et je crois que c'est pas votre cas non plus, qu'il suffit de restreindre les volumes, il faut redistribuer très largement. Alors maintenant je viens à votre question. Le récit c'est quoi ? Eh bien moi je vais le dire. Moi, je pense que le récit, il est en train de se construire. Et il est en train de se construire autour de la notion de bien commun et autour de la notion de commun. Il y a de plus en plus une conviction, hein, qu'un certain nombre de ressources fondamentales, l'eau, la terre elle-même, l'air, le climat, etc., doivent être traités comme des biens communs. Et ça, c'est un narratif qui mobilise les gens à travers le monde, quelles que soient leurs différences. Donc, introduire une instance internationale qui serait rivale de l'OMC et qui aurait pour objet de constituer ces grands objets en bien commun de l'humanité, hein, et de les protéger et de les défendre, fait partie du récit qui est en construction.
Mais votre bien commun, Benjamin Coria, pour que justement on puisse construire ce récit, il faut aussi pouvoir le mesurer. La raison pour laquelle la croissance, ça marche, la croissance du PIB, le PIB, ça marche comme indicateur, c'est que ça se mesure, alors avec toutes les faiblesses qu'on connaît. Alors, en gros, ce serait quoi l'indicateur autour du bien commun qui permettrait justement de remettre tout cela au cœur du débat. Alors il y a évidemment le fameux bonheur national brut que nous a proposé le roi du Bhoutan, mais pour l'instant il n'a pas véritablement séduit le reste du monde.
Si vous voulez, ça va au-delà des seuls indicateurs quantitatifs, encore que Stiglitz, d'autres, etc., et commencer à travailler sur les indicateurs quantitatifs. Ça va au-delà. Dans 10 ans, on n'a pas besoin d'être grand prophète, on aura des guerres de l'eau sur la planète.
On en a déjà.
Le Moyen-Orient pourrait largement, au-delà des conflits multiples, etc., être interprété comme une guerre de l'eau. Économiser la guerre de l'eau en installant en installant l'eau bien commun et des principes de répartition basés sur des accès égalitaires qui préservent la ressource, etc. C'est pas un récit mobilisateur, ça. Ça n'a pas des effets en termes de bénéfices économiques gigantesques. Mmh. Et on pourrait multiplier les exemples.
Fabrice Flipeau, avant de retrouver notre nouvelle et dernière invitée, Familia Padeu, qu'on va retrouver dans un instant par téléphone, sur cette question des indicateurs, quels indicateurs on pourrait imaginer pour remplacer notre fameux PIB? Est-ce qu'il y a des initiatives intéressantes en la matière?
On passe du récit à l'indicateur, ce qui est extrêmement réducteur, à mon sens. Le PIB, c'est une résultante d'un certain mode de vie.
Moi, il doit s'appuyer sur quelque chose, et l'indicateur, malheureusement, que vous le veuliez ou non, tout aujourd'hui doit être mesurable, quantifiable, et il faut passer par là.
Certes, mais on n'est plus dans le récit. C'est ça que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Voilà.
On peut les associer.
On ne peut pas réduire un récit à des indicateurs.
Non, on ne peut pas le réduire à des indicateurs. Mais le récit peut embarquer des indicateurs.
Les indicateurs prennent un sens
différent,
dans un récit.
Oui.
Et le récit, pour moi, c'est cette critique du développement. Cette critique de ce qu'est devenu l'Occident au cours de ces derniers siècles, c'est-à-dire la première mondialisation, la deuxième, l'espagnole-portugaise, la deuxième anglaise du XIXe siècle, la troisième qu'on vit actuellement, que cette période-là est plutôt une période, on va dire, d'exceptionnalité, qu'il y a un certain nombre d'inégalités qui ont été créées, de comptes à rendre d'une certaine manière vis-à-vis de l'histoire, vis-à-vis du reste du monde, je pense à tout ce qui est colonialisme et post-colonialisme, et que l'histoire, elle doit être écrite maintenant avec toutes ces personnes qui, pour l'instant, n'ont pas tellement la parole et qui écrivent, en fait. Hein, c'est-à-dire que juste, on ne les connaît pas parce qu'on est au centre. On ne connaît pas leurs récits. Mais c'est ces récits-là qui doivent revenir au centre de la discussion. Il y a tout un tas d'endroits dans le monde, notamment dans les pays qui ont été colonisés, dans lesquels il y a des pensées alternatives en disant, voilà, le buen vivir ou des choses comme ça. Nous avons des modèles de société à proposer et qui vont dans le sens de l'harmonie. Pour moi, c'est ça le récit. Donc la critique du développement est tout à fait centrale, la critique du progrès. Et c'est là-dedans que les indicateurs viennent juste nourrir le récit.
Mais
le récit,
c'est celui-là. Il faut s'intéresser aux initiatives locales pour voir tout ça.
C'est un des éléments qui fait partie, mais voilà, on n'est plus dans l'histoire et la géographie, en fait, pour avoir un récit.
Exactement.
Alors, on va justement quitter ce récit global et s'intéresser peut-être à ce qui se passe justement localement. On va prendre un exemple, retour au local, on va aller du côté de Détroit. Alors, il faut rappeler, dans les 2-3 premières décennies du XXe siècle, la ville de Détroit, dans le Michigan, a connu un essor considérable grâce, évidemment, au développement de l'industrie automobile. On est passé d'une population de quelques 250 000 habitants à plus d'1,5 million. Et puis, il y a eu le déclin de la ville qui s'est amorcé, qui a fini par la faillite, on s'en souvient, en 2013. Et depuis, justement, la ville de Détroit essaye un peu de se réorganiser, de convertir les friches industrielles, de transformer les quartiers dans des démarches parfois très innovantes. C'est le cas par exemple avec ces fermes urbaines. Écoutez.
Welcome to D-Town.
Bienvenue à D-Town Farm.
This is the city of Detroit. We're in.
Tout autour, c'est Détroit. Le quartier Rouge Park, dans le nord-ouest de Détroit. Mais ici, on oublie qu'on est en pleine zone urbaine. On se croit à la campagne. Là, on a des petits pois, de l'ail, là, on vient de planter de la kale, des courgettes, de la laitue, des épinards, des tomates, du basilic, des concombres et des haricots qui viennent de sortir là. On vend sur des marchés de producteurs locaux et les bénévoles aussi récupèrent des légumes.
Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf que tout cela, ça se fait au cœur d'une ville, au cœur de Détroit. Bonjour, Familia Padeu.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie et chercheuse à l'Université Paris 7, et puis vous êtes une ancienne collaboratrice de Culture Monde, ce qui n'est pas le moindre de vos titres. Alors, Détroit, c'est vraiment un très bon exemple de ville soucieuse, de revenir au local, de revenir au localisme, avec beaucoup, beaucoup d'initiatives qui le montrent, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, de l'alimentation. On trouve des systèmes, par exemple, d'AMAP, ces associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Mais on va quand même plus loin, là, avec ces fermes urbaines. Alors, il y en a deux grandes qui sont très connus, il y a Earthworks et puis D-Town, dont on vient d'entendre un petit extrait, et qu'on voit d'ailleurs, je crois, dans le film Demain de Mélanie Laurent et de Cyril Dion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, comment ça fonctionne, comment, qui cultive, où est-ce qu'on vend ces produits de la terre, Familia Padeu?
Oui, alors ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est des fermes qui ont été vraiment créées par des militants. Donc, si vous voulez, c'est pas des agriculteurs urbains à la base, c'est vraiment des gens qui, localement, se sont organisés pour cultiver. donc qui ont vraiment réappris toutes sortes de cultures et de techniques et de savoir-faire agricoles. Et ça fonctionne à partir du bénévolat. Donc il y a les gens du quartier qui viennent régulièrement pour aider. Et ensuite, la production est vendue soit sur place, alors à des prix qui sont relativement modérés, pour faire en sorte que on va dire la population défavorisée puisse aussi accéder à des produits frais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des réseaux qui sont créés, on va dire ce qu'on appelle des systèmes alimentaires locaux en lien avec les marchés alimentaires de la ville, où en fait le marché fait une place à la production alimentaire locale à Détroit avec des stands Grown in Detroit qui permettent de vraiment valoriser la production locale.
Ouais, on crée des labels.
Oui, exactement. Ouais. On crée des labels et c'est pas seulement un label bio, donc si vous voulez, il y a la question écologique et environnementale qui est présente, mais aussi il y a une question sociale qui est forte, c'est-à-dire qui est-ce qui produit et comment on soutient aussi, à la fois d'un côté les consommateurs défavorisés qui veulent avoir accès à des fruits et des légumes, mais à la fois des producteurs qui, en ville, essayent de vivre finalement de l'agriculteur.
Ils y arrivent parce que, du point de vue économique, on peut se demander si c'est un programme rentable. Vous allez me dire, il faut toujours que vous pourquoi voir toujours une forme de rentabilité, mais quand même, est-ce que c'est un modèle, par exemple, qui est susceptible de créer des emplois? On en parlait tout à l'heure.
Oui, alors il y a quelques familles qui réussissent à vivre de l'agriculture, donc là c'est pas des fermes associatives, c'est vraiment des sortes de petites exploitations de polyculture familiale, et les gens en vivent à l'année. Et puis sinon après il y a toutes les fermes associatives, où là finalement on n'est pas dans une question de rentabilité, mais vraiment de remplacer les services, un certain nombre de communs urbains, normalement de nourrir sa population, qui sont remplis par des associations.
Tiens, des communs. Benjamin Coria, réaction.
Exactement. Je voulais rebondir sur ce point parce que j'ai parlé tout à l'heure des biens communs, hein, c'est-à-dire des grandes choses, hein, l'eau, l'atmosphère, la terre, etc. Et puis après, il y a des petits ou des moyens communs à l'échelle précisément urbaine ou à l'échelle de la campagne. L'exemple que vous avez donné, c'est typiquement ce dont il s'agit, c'est-à-dire une communauté de citoyens qui s'organise pour de la production maraîchère autour d'un immeuble. Il y a de multiples exemples de ce qu'on appelle aujourd'hui les jardins partagés, dans lesquels on réutilise un ensemble de ressources, de friches abandonnées pour de la production collective et de la production partagée. En Italie, il y a quelque chose comme 150 chartes passées entre des municipalités, 150 villes, pardon, qui passent des chartes entre la municipalité et les citoyens pour créer des communs, pour créer des écoles ouvertes partagées, pour créer des jardins partagés, pour créer de l'animation culturelle partagée, pour créer de l'alphabétisation, etc. Donc, si vous voulez, il y a du très grand commun et il y a du petit commun.
On voit que finalement, peut-être que la solution émergera du bas et pas forcément d'en haut et de nos responsables politiques. Fabrice Flipeau, vous qui étiez, alors c'est pas vous que je vais dire ça, mais vous étiez récemment à la conférence internationale de Budapest sur la décroissance. Évidemment, ça vous parle. Ce sont ces petites initiatives locales qui peut-être changeront finalement à la fin le modèle.
Oui, voilà. Enfin, ça démontre en tout cas que c'est possible. Ouais, c'est et après, quand on généralise, on s'aperçoit, par exemple, pour l'agriculture, qu'il y a des calculs qui ont été faits, que si on généralise en France l'agriculture bio, ça fait entre 1 et 2 millions d'emplois de plus. Bon, il y a plein de calculs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas très diffusé. Il y a des alternatives pratiquement dans tous les domaines. Hein, j'ai parlé de l'habitat tout à l'heure. On pourrait parler de la santé. Quelqu'un a fait le calcul, un médecin d'attaque a fait le calcul. Calcule que sur les 10 000 médicaments vendus en pharmacie, 150 sont réellement utiles. Et tout est à l'avenant. Il y a énormément de choses comme ça qui sont des dépenses qui ne servent à rien. Alors après, on va dire, oui, mais si on arrête, si on revient sur l'utilité des choses et donc la production du bien commun, la production collective du bien commun, on revient aussi à cette question d'emploi. Et sur la rentabilité. Bon, il y a deux sens à rentabilité. Hein. Il y a un premier sens qui est équilibrer les comptes. C'est-à-dire que l'emploi est pérenne, voilà, tout simplement. Ce qui rentre égale ce qui sort. On peut payer quelqu'un sur le long terme. Et il y a un autre sens qui est d'essayer de gagner le plus de fric possible. Bon, évidemment, le deuxième, on l'écarte. Et si on veut produire du commun, c'est-à-dire un bien commun plutôt qu'un mal commun, parce que bien commun s'oppose au mal commun, donc une qualité de vie qui soit bonne, bonne santé, une information. Donc on revient aux besoins fondamentaux de l'être humain, aux dimensions fondamentales de l'être humain, comme disait Ivan Illich. Eh bien, il y a une division du travail qui va continuer à exister. Et si on veut qu'une fonction soit remplie, qu'on ait des médecins, ben il faut bien qu'ils vivent, le médecin, donc il faut bien le payer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on vient à une vision plutôt fonctionnelle, en fait, des choses. Et rien n'interdit de penser que cette logique fonctionnelle soit inclusive de tout le monde, et donc qu'on soit au plein emploi ou autour du plein emploi. Rien ne l'interdit. Maintenant, il faut réfléchir différemment par rapport au mode actuel de réflexion autour de l'économie.
Flaminia Padeu, dernière question, toujours sur ces fameuses fermes urbaines de Détroit, en quelques mots, parce qu'il y a une chose qui est très très intéressante dans tout ça aussi, c'est l'hybridation toujours des modèles. Et on voit que dans ce cas précisément, on voit que la production locale, elle permet aussi de choisir ce qu'on consomme. Et dans cette ville, donc Détroit, grande majorité, on le sait, noire, on redécouvre, et ça c'est intéressant, la culture de la soul food, c'est-à-dire cette tradition culinaire afro-américaine qui vient du sud vraiment des États-Unis avec beaucoup de produits, le maïs, le manioc, les navets, les haricots noirs, le chou, etc. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi un retour en force d'une culture culinaire afro-américaine qu'on avait un peu oubliée. Flaminia Padeu.
Oui, ce qui est vraiment très intéressant, en fait, c'est que là, la question des communs, c'est pas seulement les communs fonciers sur réapproprier la terre ou les moyens de production, mais c'est aussi les communs, en fait, de connaissances, c'est-à-dire comment est-ce qu'on cuisine, qu'est-ce qu'on cuisine et comment on se réapproprie une culture alimentaire qui, justement, soit démondialisée, au sens où, moi, ce qu'on m'a dit beaucoup sur le terrain, c'est dans le système agroalimentaire mondial, en fait, voilà, il y a une sorte d'homogénéisation de la culture alimentaire. Et là, le fait de pouvoir produire sa propre nourriture, ça permet de se réapproprier aussi cette culture afro-américaine. Voilà, donc en ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a la création de communs qui sont aussi culturels et pas seulement agricoles.
Tout le monde trouve ça très intéressant ici en studio. Vous n'avez pas l'image, Flaminia, mais Benjamin Coria et Fabrice Flippot hochent de la tête pour dire Fabrice Flippot, vous insistez pour une dernière réaction.
Je voulais insister sur les États-Unis sont quand même PIB très élevé, état de santé catastrophique. Regardez, l'état des gens qui complètement dépossédés de leur capacité culinaire à bouffer des choses vraiment de très mauvaise qualité. Et regardez leur apparence, le résultat, la morbidité. Bon, voilà.
Benjamin Coria.
Oui. Bien sûr, il y a aussi la question de la santé publique aussi qui joue un rôle très important.
Qui d'ailleurs, effectivement, ces fermes urbaines, elles s'accompagnent aussi de programmes de santé publique autour de l'obésité, etc. Ce qu'on n'a pas dit, Benjamin Coria, en quelques...
Oui, il y a un nouveau coopérativisme qui est en train de se développer autour des communs, et qu'il s'agisse des petits communs ou des grands communs, je crois vraiment, oui, qu'un récit est en cours de construction et c'est ça qui fera changer nos politiques.
On parlait de Détroit, on va rester sur Détroit. Un homme de Détroit.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the Curious? That makes you James the Weak.
Ouais, c'est dur d'arrêter ça. Tout le monde écoute, là. Personne n'a une idée de ce que c'est. Sixto Rodriguez.
Ah oui.
Sixto Rodriguez. Et d'ailleurs, ça a donné un très très beau documentaire que je vous conseille qui s'appelle Sugarman. Parce que l'histoire de cet homme, c'est évidemment un homme qui n'a jamais su qu'il était extrêmement connu dans un pays très très lointain, en l'occurrence en Afrique du Sud. Et c'est une très très belle histoire. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat, à ces échanges autour de cette question de la décroissance. Benjamin Coria, Fabrice Flippot et Flaminia Padeo qui est avec nous par téléphone. Tout de suite, on retrouve, comme chaque jour dans Culture Monde, notre ami Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors depuis le début de la semaine, vous nous avez brossé le portrait d'une Europe impuissante. Il y a tout de même plusieurs dossiers européens qui étaient bloqués par la réticence britannique. Le Brexit pourrait-il libérer l'initiative par exemple pour une force armée européenne par exemple?
Mais c'est vrai que les Britanniques, jaloux de conserver l'usage de leurs propres forces armées, avaient constamment alterné les petits pas en avant et les grands pas en arrière sur ce sujet. La diplomatie française en ce moment insiste auprès des États de l'Union, ceux qui ont conservé en tous les cas un minimum de crédibilité, pour qu'on avance. L'Europe doit assurer davantage sa propre défense, a notamment déclaré le président de la République lors du récent sommet de Ventotene. Ce que sous-entendent les Français, c'est que la garantie américaine sur la sécurité de l'Europe est de moins en moins effective. D'autant qu'une éventuelle élection de Donald Trump se paierait d'une vague d'isolationnisme comme les Américains nous en ont fait subir périodiquement. À ceux qui n'en sont pas persuadés, je rappellerai les propos tout récemment tenus par le candidat républicain devant ses supporters, je le cite. « Nous protégeons des pays dont aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler. » Et ça peut nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. S'ils sont attaqués par la Russie et qu'ils viennent nous chercher en disant « Nous avons un traité », moi je leur dirais « Vous avez un traité, mais est-ce que vous avez payé ?» Du coup, l'idée d'une armée européenne refait surface. Comme le remarque le site Euractiv, elle est relancée du côté où l'on attendait le moins, le groupe de Visegrad. Lors d'un sommet qui s'est tenu à Varsovie le 26 août en présence de l'Allemagne, les quatre pays de Visegrad, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, ont relancé l'idée d'une armée européenne. Les Tchèques et les Hongrois voudraient en particulier que l'UE s'engage à protéger ses frontières extérieures. Angela Merkel les a appelés, je cite, à faire preuve de prudence. Comme le remarque Euractiv, les membres du groupe de Visegrad ont été incapables de mettre sur pied la moindre force commune. On voit mal comment une armée européenne pourrait voir le jour, alors que la perception de la menace est très différente selon qu'on est situé au nord et à l'est ou au sud et à l'ouest de l'Union européenne. La commissaire aux affaires étrangères de l'UE, Federica Mogherini, a fait preuve de réalisme en déclarant à Bratislava, je cite, « Nous sommes tous conscients qu'il n'y aura pas d'armée européenne dans un futur proche, dans 50, 60, 100 ans, qui sait ?»
Et d'ailleurs, on peut noter aussi que François Hollande est favorable à cette idée d'une armée européenne. Mais est-ce qu'on a une idée, Brice, de la manière dont cette vague d'euroscepticisme se traduit sur le plan culturel ?
Ben oui, le bimensuel The American Interest attire notre attention sur une création qui a eu lieu en août dernier au Festival de Salzbourg, en Autriche donc. Aux yeux de l'auteur de l'article, il faut y voir une allégorie de la situation morale de l'Europe. Alors de quoi s'agit-il ? Ben d'un oratorio dont la musique est due au compositeur hongrois Peter Eötvös et le texte à son compatriote Peter Esterházy qui venait de mourir le mois précédent. On peut donc considérer cet oratorio qui est intitulé « Notre cœur Balbulus » comme le testament de ce grand écrivain européen. Or cette œuvre est manifestement consacrée à l'état moral de notre Europe. Notre cœur Balbulus, ou Notre cœur le Bègue, un moine, fut l'auteur au Xe siècle d'une vie de Charlemagne, Gesta Caroli Magni, et d'un livre des hymnes qui montre qu'il était aussi musicien. Bref, un de ces moines qui ont tenté de sauver une partie de l'héritage en une époque de ténèbres. L'oratorio d'Esterházy et Eötvös met en scène trois personnages confrontés à un cœur. Alors il y a le narrateur chargé de commenter l'histoire européenne récente, et c'est très précis, jugez-en, le texte. Après la Première Guerre mondiale, nous avons attendu la Seconde. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons attendu la fin du communisme, tout en ayant encore plus de pensées poétiques. 68, All You Need Is Love. Après la fin du communisme, nous n'avions plus de futur. Il n'y a pas de progrès, c'est ce qui nous a effrayés. Et maintenant, il nous faut des frontières, nous érigeons partout des clôtures, et puis nous clôturons les clôtures. Et puis il y a le personnage du prophète, c'est lui le bègue. C'est bien sûr un anti-prophète, il a perdu la foi en Dieu, il est consumé par le doute. Il ne croit plus d'ailleurs en sa propre capacité à prévoir ou à prédire l'avenir. C'est manifestement, dit l'auteur de l'article, le représentant des élites européennes qui sont en panne de projet. Le cœur, lui, eh ben, il est condamné à répéter constamment des Alléluia empruntés à de grands représentants de la musique classique européenne, car la musique des Eötvös ne répugne pas aux citations et aux collages. Quant à l'ange, eh ben l'ange, c'est un personnage profondément déprimé qui confesse être saoul en permanence depuis qu'il a bu en compagnie de Nietzsche. Bref, c'est l'incarnation du nihilisme européen. C'est l'intellectuel de la bande, si vous voulez. Pas de doute, conclut Nicolas Gallagher, l'auteur de l'article, quelque chose est en train de s'écrouler. La Willkommenskultur de Merkel, l'union toujours plus étroite de Bruxelles, le soft power européen, tout cela tombe en ruine sous nos yeux. Pour les élites, c'était une sorte de religion de remplacement, ça ne fonctionne plus. Allusion au fameux et historique « Wir schaffen das », nous allons y parvenir, de Merkel face à la vague migratoire. L'Europe est coincée entre les populistes qui veulent des frontières et des clôtures et les islamistes, car la deuxième partie de cet oratorio est consacrée, figurez-vous, au 11 septembre et au terrorisme qu'il inspire.
Merci beaucoup, Brice Couturier. Une chronique, évidemment, qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, le tour du monde des idées. C'est tous les jours avec vous, Brice, à 11h53, dans Culture Monde, sur France Culture. Merci beaucoup, Brice, et encore merci à nos invités, Benjamin Coria, Fabrice Lippo et Flaminia Padéou.